Bienvenue sur les apprentis lecteurs de Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 34, c'est-à-dire le sixième chapitre de Kathleen. Alors, vas-y, Guillaume.
Tu me dis pas toujours accompagné de Guillaume et tout ?
Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, toujours accompagné de mon acolyte, mon secondant, de ma main.
Ta main.
De ma reine-mère.
Calme-toi.
C'est parti.
Bah attends, bonne année déjà.
Ah, bonne année, c'est vrai. Ouais, mais le temps qu'ils écoutent cet épisode, ça en février ou mars.
Désolé les gars.
C'est vrai que là, on aurait cet épisode, on est le 5 janvier 2020. C'est vrai qu'on n'a pas un an de retard quand même. Mais oui, c'est vrai que pour nous, c'est une bonne année.
Bon, faut qu'on speed. Alors, dans ce chapitre, comme tu l'as dit, on retrouve Kathleen, après un long voyage dans le Val, qui a coûté quand même la vie à 6 personnes de son escorte, ils vont finir par croiser la route de Sir Donnel Wynwood, qui va mener Kathleen jusqu'à la Porte Sanglante, où elle a pu retrouver son oncle, Sir Brynden Tully, dit le Silure. Apprenant la présence de Tyrion dans le Val, Sir Brynden prévient Kathleen que Lysa Tully risque de ne pas être d'une aide aussi prometteuse que prévu. Les rumeurs de son changement de personnalité depuis son séjour à Port-Réal s'avèrent être véridiques. Kathleen arrive à la Porte de la Lune où elle est accueillie par Nestor Royce, qui laissera Mia Stone la guider pour l'ascension jusqu'aux Arriers. Une fois les retrouvailles entre sœurs effectuées, Lysa n'est guère emballée par la venue de Tyrion aux Arriers. Lysa, ne sachant pas quoi faire du lutin, mais son fils a une idée. Pourquoi pas le faire voler?
Ok. Merci Guillaume pour ce résumé. Alors c'est vrai que ce chapitre, il a été compliqué à préparer.
Il est long, hein?
Il est vachement long, mais on a déjà eu des chapitres qui étaient moins à préparer. Celui-là, vraiment, j'ai mis du temps. 3 ou 4 heures. Peut-être même plus autour de 4 heures que 3 heures. Parce que il y a vraiment énormément de choses. Donc excusez-nous déjà de la longueur de l'épisode. Je sais pas combien de temps il va durer, mais je sais qu'il va durer pas mal de temps. Mais en tout cas, vous en apprendrez beaucoup au fil de... Comment on dit?
De l'écoute.
Ouais, de l'écoute, c'est-à-dire de la lecture, mais c'était pas tellement le terme que je voulais employer. Donc c'est parti. Le chapitre débute par une conversation entre Kathleen et Sir Donnel Wynwood. Alors, les Wynwood n'ont toujours pas été traduits dans la version française.
Ah, j'ai cherché dans l'appendice, ouais. J'ai pas trouvé.
Ouais, c'est normal. Et ça fait déjà beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui se sont glissées dans ce chapitre. Donc, on va les notifier. Et les Wynwood en font partie. Donc, en français, ça a été traduit par Vanbois. En tout cas, dans les tomes d'après, ou même ça se trouve dans ce tome-là. Hein, parce qu'on sait que même dans ce tome, il y a, par exemple, le terme de Riverrun qui change, qui fut
traduit. Blackwood.
Ouais, ça, Blackwood.
Halfhand.
Ça, ben, on va j'allais les citer après, mais t'as raison, c'est ça, c'est tout ça. Mais en tout cas, Wynwood, c'est les Vanbois, en fait.
Mais on va à la salle des Harines, du coup?
À la salle des Harines, toujours. Okay. Et il se trouve dans les appendices, en fait.
Ok, d'accord.
Donc, si on regarde dans les appendices, pardon, je suis en train de les ouvrir. Dans les appendices, si on regarde au niveau de la maison Vanbois, on sait que c'est une maison vassale de la maison Harines, qui est dirigée par Lady Anya Vanbois, une veuve, et elle a deux fils. Sir Morton Vanbois, son aîné, qui est un soupirant de Lady Lysa. On va pas vous faire l'insulte de définir ce qu'est un soupirant, même si je vais le faire plutôt. Donc c'est quelqu'un qui essaye de...
Insulte nos auditeurs, du coup.
Comme on va le voir à la fin du chapitre, de courtiser Lady Lysa Arryne. Et le dernier, Sir Donnel Vanbois. Donc justement, celui qui parle à Kathleen en ce moment même. Mais t'as raison, ça fait quelques heures de traduction, ça m'étonne. Je crois que c'est toi aussi qui t'as étonné que ça n'avait pas été corrigé depuis que c'est sorti Game of Thrones, surtout sur une version numérique.
Ouais, Jean Sola regrettait quelques... Je crois qu'on en avait parlé en off, mais j'avais lu que Jean Sola regrettait quelques termes, notamment la sèche des Greyjoy, qui est un kraken, et le terme loup-garou. Nous, on dit toujours loup-garou, mais en fait, en anglais, c'est direwolf, et c'est plus sombre loup. Dans la fantasy, on traduirait plus par sombre loup.
C'est ça. Mais alors là, ça a des erreurs qui sont... Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment une erreur technique, quoi. C'est quelque chose qui a dû être notifié au fur et à mesure des lectures et qui a toujours pas été changé.
Ouais.
Tous ces termes.
Ouais, c'est vrai que.
Donc tu l'as dit, un vif
zèque. Entre les différentes éditions, entre l'édition J'ai lu, Pygmalion, je sais pas quoi, ils l'ont imprimé plein de fois, quoi.
Bah, moi, je sais que dans le tome que j'avais acheté il y a longtemps maintenant, donc il y avait les mêmes erreurs, mais c'est vrai qu'on a acheté l'édition numérique, pour qu'on soit plus à l'aise, pardon, pour préparer ces épisodes, et ça m'étonne que ces erreurs s'y glissent toujours pas. Donc voilà, ne pas retenir le terme Waywood pour la version française, mais le terme Vambois.
Perso, je préfère les Waywood. Ça claque.
La conversation nous apprend aussi que le groupe a perdu 3 hommes de plus sur la roule du Vendarin. Donc on sait que lors de la première escarmouche, les hommes qui ont été perdus étaient Jik, un des valets de Tyrion, et 2 hommes au service de Jonas Bracken, donc les sires de la Haie Pierre, Kurkelet et Moror. Et donc depuis cette première escarmouche, et donc depuis le dernier chapitre de Catelyn, 3 autres hommes sont morts, c'est-à-dire l'autre valet de Tyrion, Morek, Larys, un archer au service de la maison Bracken, et Tigun, un franc-coureur. C'est-à-dire que maintenant, il ne reste plus dans le groupe de Catelyn que Tyrion, Catelyn bien sûr, Roderick Castle, Bronn, Sir Willis Wood et le chanteur Marion. Alors, Game, est-ce que tu te rappelles Sir Willis Wood, c'était un chevalier au service de qui?
Non, je sais plus.
Ok. Je vais te donner un indice. Il était au service de la dame qui dirige Arenhal.
Went.
Yeah. Et son prénom?
Lady. Went.
Lady Went.
Non, je sais pas comment elle s'appelle.
Sir Donnell nous apprend que depuis la mort de Jaehaerys Arryn, les clans de la montagne sont de plus en plus belliqueux, mais que Lysa Arryn, maintenant régente de la maison Arryn, vu que son fils Robert est trop jeune, refuse d'envoyer des cavaliers afin de chasser les corps. Tout ça pour rester à portée du Val et de le protéger. Mais de quoi se demande Sir Donnell? On se souvient que Varys disait à Yeru Maupatis que Lysa amassait une armée comme Stannis Baratheon, et Catelyn, elle, sait que ce sont les Lannister que craint sa sœur. On entre alors dans les pensées de Catelyn, qui s'inquiète de la nouvelle amitié formée entre Tyrion et Bronn, le franc-coureur qui les a accompagnés depuis l'auberge du Carrefour. Mais elle s'inquiète aussi de la personne de Tyrion, qui est maintenant armée, et même s'ils sont escortés par une 40aine de chevaliers au service de la maison Arryn, Tyrion paraît très à son aise. Trop à son aise.
Mais ça la fout mal, ouais.
Catelyn en vient même à se demander si elle s'est trompée concernant le crime qu'aurait commis Tyrion.
On en avait parlé au dernier épisode, ça, non?
Des remords commencent même à ressortir. 6 hommes avaient péri depuis qu'elle avait été attrapée. Mais cela, au contraire, renforce son jugement. Et t'as raison, on en avait parlé dans un épisode.
Bah, c'est exactement ça. C'est plus tu t'engages dans un truc et plus t'as l'impression d'avoir franchi un point de non-retour, plus tu peux... Je vais me répéter, mais...
Elle s'enfonce, quoi.
Plus tu t'enfonces...
Plus tu t'enlises, en fait.
Ouais. Bah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un vrai truc de manipulation et de... Enfin, plus t'as investi, plus t'es niqué, quoi.
Mais c'est ce qu'elle dit, hein. C'est vraiment qu'elle a des doutes, mais vu qu'elle est déjà allée trop loin, elle peut plus se permettre d'avoir de doutes, maintenant. De toute façon, bon, pour la mettre, autant y aller à fond.
Tu sais que... Tu vois les voitures que t'achètes en pièces chez le marchand de journaux, genre le premier 99 centimes, les roues. Bah en fait, c'est le même principe, genre ils te mettent 99 centimes première, après 2,99, après 5, et en fait t'as trop investi et t'es obligé d'acheter les derniers trucs qui coûtent 15 balles, genre. Ils te niquent comme ça. Je te jure, c'est vrai.
Catelyn demande à Sir Donnell Vambois de quérir Maître Colmand dès leur arrivée au fort, car depuis les affrontements et sa blessure, Roderick Castle, le maître d'armes de Winterfell, souffre d'une grosse fièvre. Mais cela n'est pas possible, le chevalier indiquant à Catelyn que le maître doit rester chaque seconde auprès de Robert Arryn, ordre de Lady Lysa. En revanche, un septon pourra essayer de soigner le blessé. Catelyn était dubitative. Dans le domaine de la médecine, elle avait paradoxalement plus de foi en maître qu'au septon. Et du coup, on savait pas que les septons, ils avaient des, comment dire, des facultés de guérison. On sait pas trop si ça est. Vu la manière dont on parle Kathleen, nous, on a l'impression plus que c'est quelque chose qui relève plus de la foi ou de la religion que de la vraie médecine, quoi.
Ouais, c'est comme un peu le toucher du pape, genre ça guérit.
Mais pense pas, ça se trouve qu'ils ont vraiment des domaines dans la médecine, hein, les Septons.
Ouais.
On connaît pas trop leurs compétences encore, mais c'est vrai qu'on.
Bon, Kathleen, elle a pas l'air super emballée.
Ouais. On sent que la foi des Septs, ça a des limites, quoi.
Ouais.
Arrivé à la porte sanglante, un chevalier portant les couleurs de Vivzeg vint les accueillir. Sœur Donnel Vanbois s'annonce ainsi. Pardon. Sœur Donnel Vanbois s'annonce ainsi que Lady Kathleen et ses compagnons. L'identité du chevalier qui garde la porte sanglante est alors révélée. Il s'agit de, comme on peut aussi le lire dans les appendices, Brynden Tully, surnommé le Silure. En passant, le Silure, c'est un poisson d'eau douce.
Poisson noir.
Ouais, c'est ça. Gardien de la porte sanglante et oncle de Lisa et Kathleen. Si on réfléchit bien, c'est donc le frère de Auster Tully, le sire de Vivzeg. Si on réfléchit bien, d'accord, en lisant le chapitre, mais c'est après confirmé dans le chapitre aussi. Ils entrent dans le Val, au-delà de la porte sanglante, qui était, dit-on, pratiquement infranchissable à l'âge des héros.
Elle doit bien porter son nom, du coup, parce que tout le monde mourait au pied, quoi.
C'est vrai que le Val, comme on le voit dans le chapitre, ça a l'air vraiment d'être un... C'est même Lisa qui dit, hein, ça a l'air d'être un peu un château imprenable.
Ouais.
Vu la cartographie du lieu, ça a l'air vraiment compliqué avec des chevaliers et tout le con. Hein.
Ouais. Mais bon, je pense qu'avec des dragons.
Avec des dragons, c'est assez facile, ouais. Et donc, comme on vient de lire, pratiquement infranchissable l'âge des héros. Et donc là, on va faire un petit point de temporalité par rapport au trône de fer, parce qu'on a eu. Plusieurs notions de ces différents âges, de ces différentes timelines. Enfin, différentes timelines, pas tellement, mais points d'ancrage. Alors, si on résume à peu près ce qu'on a eu depuis le début, on aurait eu ce qu'on appelle l'âge de l'aube avant l'arrivée des premiers hommes. Ça serait un temps où les enfants de la forêt auraient réalisé les barrages.
Quand est-ce qu'on en a parlé de ça? Dans les premiers chapitres?
Ouais, dans un chapitre de Kathleen, justement, quand elle parlait justement des... Je crois que c'est dans le premier chapitre de Kathleen, quand elle parlait des barrages. Elle dit justement c'était à l'âge de l'aube, avant l'arrivée des premiers hommes, que les enfants de la forêt les avaient construits.
D'accord.
Vient ensuite l'arrivée des premiers hommes et l'âge des héros, où on sait que pendant celui-ci ou après celui-ci, il y a eu la longue nuit. Parce que quand Zeynan récite à Bran son conte, on dit que le dernier héros s'en fut trouver les enfants de la forêt afin de l'aider.
Ok.
Donc en gros, on a eu l'âge de l'aube où il n'y avait pas d'hommes à Westeros et où il y avait les enfants de la forêt qui construisaient Barral. Ensuite, les premiers hommes sont arrivés et donc à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu la longue nuit avec tout ce qui s'appelle les autres.
Visiblement, ce serait après l'âge des héros parce que le dernier héros.
L'arrivée des premiers hommes, l'âge des héros et donc après l'âge des héros, la longue nuit. Ou avec les marcheurs blancs, les autres, etc. Et donc le dernier héros qu'a raconté Vaina, hein, est parti trouver un enfant de la forêt. C'est celui qui était poursuivi par
des
araignées de glace, des chevaux de glace. Puis même son sang palpitait. Il y avait les chiens mouraient, etc. Mais on sait par Bran qu'il a réussi à les trouver, ce dernier héros, les enfants de la forêt, et que ces enfants de la forêt l'ont aidé. Ensuite, à Westeros arrivèrent les Andals. Et les Rhoynar, donc on sait qu'ils sont arrivés après les premiers hommes à Westeros, et après la longue nuit. Et dans toute cette chronologie, il y a eu un moment de l'autre côté de Westeros, sur Essos, le fléau de Valyria. Mais on ne sait pas trop à quel moment ça s'est passé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu flou pour l'instant, il n'y a pas tellement d'indications, mais on peut retracer en tout cas cette chronologie qu'on a eu depuis le début. Je crois que j'espère que je suis clair, Guillaume.
Oui. On n'a pas tous les aimants de la frise, mais on peut essayer de commencer à la faire.
Ouais. Le chapitre nous donne ensuite une description du Val d'Arryn où on peut en tirer deux lieux marquants. La lance du géant, la montagne la plus haute du Val d'Arryn, et un torrent du nom des larmes d'Alissa. La forteresse des Aïe nous est aussi décrite comme ayant sept tours blanches immaculées. Et Brynden les informe qu'il leur faudrait un jour pour atteindre le pied de la montagne, donc la lance du géant, et un autre jour pour la gravir et atteindre la forteresse des Aïe.
D'accord.
Sir Roderick informe alors Kathleen qu'il ne pourra pas continuer ce voyage étant trop malade. Seul demeure alors avec Kathleen pour l'ascension, Tyrion Lannister, Bronn le franc-coureur et nouvel ami du Dain, au bon et plaisir de Kathleen, et le rhapsode Marillion. Sir Willis Wood resterait avec Sir Roderick au bon soin du septon local. Kathleen entame alors la descente vers les portes de la Lune, accompagnée de ceux précédemment cités et de Brynden Tully, ainsi que de six de ses hommes. Sur la route, son oncle demande à Kathleen de lui raconter ce qui l'amenait aux Aïe, cette fameuse tornade. Et donc, à ce moment-là, on en apprend un peu plus sur Brynden Tully, de même que l'histoire de son surnom, le Silure. Donc, vas-y, Guillaume, tu vas en fait parler de Brynden Tully.
Donc, Brynden Tully, on le rappelle, frère de Hoster Tully, donc l'oncle de toute la fratrie, Lisa, Kathleen, Edmure.
Alors, rappelle qui est Hoster Tully.
Hoster Tully, le père de Kathleen et le sire de Vivseg. Donc, c'est un personnage qui avait vraiment l'affection des enfants Tully. Parce qu'on dit que c'est, au lieu d'aller voir Hoster, qui était probablement trop occupé, pardon, c'était Brynden, le confident des enfants, l'épaule sur qui fallait compter. Et en tout cas, on ne sait pas trop exactement pourquoi, mais on sait en tout cas que Hoster et Brynden se querellaient souvent. Et que Hoster l'appelait le mouton noir du troupeau. Et Brynden, disant que l'emblème des l'insigne des Tully était la truite,
ouais.
Il a dit bah je suis au lieu d'être un mouton noir, je suis plutôt le silure qui est un poisson noir. Donc le poisson noir du banc de poissons quoi.
D'où son surnom.
D'où son surnom. Moi, j'ai l'impression que genre il a essayé d'avoir de la répartie, mais moi je trouve ça éclaté. Eh, hey, je suis pas le mouton noir, je suis le poisson noir. T'as capté? Genre éclaté ta répartie, frère. C'est quoi ça? Et genre c'est devenu son surnom du coup, le silure.
Ouais.
Bah grand bien lui fasse. Hein.
Et du coup, comment il s'est retrouvé alors gardant de la porte sanglante?
Je pense qu'il a suivi Lisa, mais j'avoue, peut-être que j'ai lu un peu vite, mais c'est vrai que je m'étais posé la question, et peut-être que j'ai un peu...
Ouais, c'est dit dans le chapitre.
Ouais, dis-moi.
En gros, lors du mariage de Lisa et Kathleen, respectivement avec John Arryn et Ned Stark, on sait que ce mariage s'est passé en même temps, hein, Brynden, il a dit à Hoster que... on sait pas pourquoi, hein, mais qu'il suivrait Lisa et qu'il suivrait Lisa et John Arryn et qu'il partirait vers les Aïe. En gros, c'est ça. Et depuis, Hoster Tully n'a plus jamais reparlé à son frère.
Ok.
Mais bon, on sait pas trop pourquoi. Comme tu l'as dit, hein, ils étaient en conflit depuis pas mal de temps. On sait pas trop à quel sujet. Et puis là, bon, ils s'est décidé à partir, mais on sait pas trop s'il y a quelque chose qui a causé ce départ ou pas. Après, c'est pas mystérieux, mais c'est assez intriguant, quoi.
Ouais.
On peut aussi déduire que la mère de Kathleen, Lady Minissa Went, n'est pas morte en donnant naissance à Edmure, son dernier enfant, mais à un autre enfant, parce que justement dans les appendices, ça dit que Lady Minissa Went est morte en couche, mais d'après le chapitre, Edmure l'a connue d'après les souvenirs de Kathleen. Donc supposément, ouais, elle est morte en donnant naissance à un quatrième enfant qui n'a pas vu le jour.
Je crois que dans le chapitre, on comprend aussi qu'elle était un peu de constitution fragile.
Ouais. Mais donc, en tout cas, la mère de Kathleen est une Wint. Brynden, après l'avoir écouté, prévient Kathleen qu'il va former à former Hoster Tully, car si les Lannister entrent en guerre, Vivseg sera à portée de main. Bien que le Nord, donc les Winterfell et les Aryn, eux, bon, ils sont en sécurité, hein. C'est vrai que si on regarde la carte, Castrel Rock, ça se trouve bien à l'ouest de Westeros. Le nord,
c'est grand.
C'est grand. Winterfell, ça se trouve très très loin. les alliés, comme on l'a vu dans le chapitre, hein, ou comme on va le voir, c'est assez protégé. Et les conflans, ça se trouve, en fait, les conflans, c'est au milieu, en fait, de la carte de Westeros. Donc c'est vrai que les Lannister, ils sont vraiment à proximité de Viseg. Catelyn lui répond que c'est la première chose qu'elle va faire, ainsi que d'investir les bannerets de Ned, de renforcer les défenses ainsi qu'il lui a donné. Et enfin, on a une mention des orques de Ned. Moi, depuis le début, là, je me parle du type, quand elle va faire, elle va envoyer ses messages, quoi, parce que là, bon, faudrait peut-être qu'elle se précipite, hein.
Au moins, elle a pas oublié.
Au moins, elle a pas oublié.
T'imagines, elle zappe complètement.
Donc, on rappelle, hein, Ned, il avait ordonné qu'on renforce McKaylee, non, une sorte de forteresse qui se trouve au niveau du Neck, et que Blancport renforce ses défenses maritimes. Brynden nous apprend aussi que le sentiment dominant dans le Val est la colère. Jon était très aimé, et la nomination de Jaime Lannister au poste de gouverneur de l'Est a eu un effet terrible. En effet, depuis près de 3 siècles, donc en fait, c'est 3 siècles, ça correspond à l'arrivée des Targaryens au pouvoir.
Ouais.
Ce sont les Arryns qui sont les sires des Arryens et qui occupent le poste de gouverneur de l'Est. Donc là, on a la confirmation que Robert, il a bien mis Jaime Lannister au poste de gouverneur de l'Est.
Alors qu'il est sûrement jamais allé dans l'Est, très probablement.
Ah, ça, on sait pas.
Ça ouais, on sait pas. Ouais, ça se trouve, mais bon, il a pas de grandes relations avec l'Est.
Quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais parce qu'on savait que, alors on savait qu'il en avait discuté avec Ned, justement que Ned et lui s'étaient engueulés par rapport à ça. Je me rappelle quand il partait de Winterfell sur la route de Port-Réal. Mais pour l'instant, ça avait jamais été confirmé qu'en fait ce poste il avait été mis en place.
Mais je croyais que quand t'étais dans la garde royale, tu pouvais pas avoir de possession de terre, machin. Bon, après là, il a pas des terres et genre il gouverne juste.
Mmh.
Ouais, parce qu'il peut pas hériter de Castle Rock.
Mmh.
Mais il peut être gouverneur de l'Est. Mais après, c'est juste tu règnes en fait, tu gouvernes.
Ouais.
Ouais.
De plus, on soupçonne ci et là que Jon Arryn ne soit pas mort naturellement. Donc là, c'est assez étrange qu'il soupçonne ça, parce que bon, pourquoi il le soupçonnerait ? Soit c'est par Lady Lysa qui a laissé entendre ses rumeurs, mais que ses soupçons viennent.
Bah, le fait que peut-être qu'elle amasse un peu son armée, entre guillemets, c'est suspect, quoi.
Mmh. Mais un dernier problème est préoccupant. L'enfant de Jon et Lysa, Robert Arryn. Fragile et pleurnichard, aux yeux de tous, et à ce problème, 2 solutions. Premièrement, que Nestor Royce gouverne le Val jusqu'à la majorité de Robert, comme il vient de le faire, depuis que Jon Arryn est main du roi. Et deuxièmement, que Lysa se remarie, étant la régente actuelle du Val d'Arryn. Lysa se laisse courtiser par courtoisie, selon Brynden Tully, mais elle entend gérer elle seule le Val jusqu'à la majorité de son fils, c'est ce qu'on comprend.
Ouais.
Et donc, avant de passer à la suite, petit rappel de qui est Nestor Royce. Donc, vas-y Guillaume.
Nestor Royce, surintendant du Val.
Ouais. Mmh. Donc, alors, qu'est-ce que tu entends par un surintendant ?
C'est celui qui va gouverner en l'absence du gouverneur officiel.
Ouais, c'est ça. Et donc en fait, si on regarde au niveau des, alors pas des, plus que les 7 couronnes des 9 terres, il y en a un actuellement, donc avant quand Jon Arryn était encore main du roi au Val d'Arryn, qui était justement Nestor Royce, et on a un autre à Calmy, vu que Rhaeny Baratheon, le gouverneur d'Acalmy, siège au conseil royal.
Oh, j'ai zappé son nom encore.
Parce qu'on n'a pas donné son nom.
D'accord, ah oui.
On n'a pas donné son nom au gouverneur actuel de l'Académie. Mais en tout cas, dans les 9 terres,
Et le bâtard de Robert devait être la pupille de cette personne.
C'est ça. Ouais. Le bâtard qui a reconnu Robert devait être la pupille de cette personne, du gouverneur d'Académie. Enfin, quoi qu'il y a aussi, maintenant qu'on y pense, il y a aussi Winterfell, hein, où Ned, il n'a pas laissé de surintendant, vu que... Oui, il a laissé pour à son fils, mais son fils est encore jeune. On rappelle qu'à Westeros, c'est pas qu'on le rappelle, parce qu'on sait pas, mais c'est pas quelque chose un spoil. La majorité à Westeros, c'est de 16 ans. Mais avant 16 ans, ça doit être toujours un régent qui,
D'accord.
Et là, à Winterfell, il y a Robb Stark, mais Robb, on sait qu'il a, 15 ans.
Oui, bah, 15 ans. Il avait laissé Catelyn quand même, hein.
Ouais, mais Catelyn est partie, donc maintenant, à Winterfell,
Ouais.
Là, il y a pas trop long pour régner, quoi. Il avait laissé Kathleen qui a, déjà, qu'elle a, elle a fui sa responsabilité. Et en plus, elle a causé du gratuit, donc, c'est pas mal, hein. Elle a bien géré son rôle. Et donc, ce Nestor Royce a un fils. Est-ce que tu te rappelles de son nom, Guillaume?
J'ai zappé.
Alors, il a un fils qui s'appelle Alba Royce.
Alba Royce, putain. Parce que je voulais pas te dire Weimar, parce que Weimar, c'est le fils de Yon.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on verra après le nom de, par rapport à Yon, tu verras, c'est assez compliqué. Les... Bon, c'est assez ressemblant, plutôt. Mais revenons à Lisa Arryn. Bien qu'elle veuille gouverner, Brynden dit à Kathleen que c'est une mauvaise idée, que les années à Port-Réal l'ont éreinté, le mariage entre elle et John était politique et non d'amour, avec plusieurs fausses couches, et la mort de son mari à la fin. Maintenant, elle ne vit plus que pour son fils, et dans la crainte des Lannister, donc Kathleen ramène justement un membre de la famille. On voit que Kathleen, encore une fois, quoi. Elle prend les bonnes décisions.
Ouais. Elle apporte les bonnes choses aux bonnes personnes. Je pense elle nous fait, elle nous fait tellement une brochette de...
Ouais, catastrophique, là. Vraiment catastrophique.
Tactiquement, techniquement.
Ouais, même le choix, là, c'est...
Mais, même dans les choix, ça va pas.
Après cette journée de voyage, le groupe arrive enfin au pied de la Lance du Géant, aux portes de la Lune, le siège de Nestor Royce. Donc, un poste de plus pour Nestor Royce, il est aussi gouverneur des portes de la Lune, hein. Brynden les informe qu'ils dormiront ici et n'entameront l'ascension que le lendemain. Et donc, si on comprend bien au niveau de la topographie des alliés, on doit d'abord arriver à la Porte Sanglante pour entrer dans le Val. Ensuite, on accède au pied de la montagne la plus grande du Val, donc la Lance du Géant, et au pied de cette montagne, il y a ce qu'on appelle les Portes de la Lune. Après les Portes de la Lune, pour l'ascension de cette montagne jusqu'à la forteresse des Arriers, il y a trois forts à escalader, qui sont pierre, neige et ciel. Et on peut escalader justement cette montagne par des marches qui ont été taillées dans le flanc de celle-ci. Ok. Ces marches sont trop étroites pour les chevaux, mais elles sont adaptées à des mulets. Sauf à l'extrémité de la montagne qu'il faut gravir à pied. D'où le fait que ça a dû être compliqué, ouais, de prendre cette forteresse.
Ouais, ça me semble galère.
Ouais. Après, Kathleen a dit, oui, il n'y a aucune forteresse qui est imprenable, ce qui est vrai. Et disais, avec des dragons...
Avec des dragons, ça passe, hein.
Sûrement, ça doit être possible, hein. Sûrement
imprenable, que... par contre, là, franchement, honnêtement, avec des hommes, je vois difficilement... Enfin, si je visualise bien le truc, je vois difficilement comment ça peut être pris, hein.
Ouais,
c'est compliqué. Juste avec des hommes, je vois mal.
Nestor Royce sont alors à leur rencontre. On apprend plusieurs choses sur le monsieur. Donc premièrement, comme je viens de le dire, il est aussi le gardien des portes de la Lune. Deuxièmement, que c'est le cousin de Yon le Bronzé. Alors Guillaume, un petit rappel de qui est Yon le Bronzé et de où on l'a rencontré.
On l'a rencontré pendant le tournoi.
Ok.
Parce que il a des sur son armure il y a du bronze avec des glyphes
Des runes magiques.
Des runes magiques.
Alors que son vrai nom c'est quoi, Yon Bronzé déjà?
Yon Royce.
Yon Royce, oui.
Et il y a son fils aussi.
Ah oui.
Il en a plusieurs.
Il est venu au tournoi de la main avec deux de ses fils.
Deux de ses fils.
Mais je pense pas que tu te rappelles de leur nom parce qu'ils ressemblent beaucoup à. Alors il a son aîné.
John, même pas.
Il a l'héritier, son aîné, qui s'appelle Sir Amda Royce. Et il est venu avec un autre de ses fils qui s'appelle Sir Robert Royce.
Oui, force. Bon, Amda Royce et Alba Royce, c'est vicieux. Hein. Martin, si tu m'entends.
Mais on sait qu'il a aussi plusieurs autres fils, parce que Sir Weimar Royce, qu'on a rencontré lors du prélude, était aussi son fils, hein. Ça a été confirmé. Et on sait que, justement, Sir Weimar Royce venait d'une famille trop nombreuse, en fait. Donc, supposément qu'il a aussi d'autres fils, mais qu'on n'a pas encore vu. Et, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc, en fait, Yon Royce, hein, c'est son cousin qui vient d'une branche secondaire de la famille Royce.
C'est Yon Royce qui vient d'une branche secondaire?
Non, Yon Royce, c'est le, alors, on sait pas, il est le sire de quoi pour l'instant, mais en tout cas, c'est le chef de la famille Royce.
Ouais.
c'est le seigneur de la famille Royce, et donc, Nestor Royce, c'est son cousin qui vient d'une branche secondaire.
Ouais, c'est pour ça que ça m'avait étonné que le surintendant vienne d'une branche secondaire, mais bon. Pourquoi pas.
Bon, après, tu sais, surintendant, c'est peut-être pas un poste si important que ça, quoi.
Bah, il a été gouverneur pendant 14 ans, du coup.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, tu vois, tu peux être un seigneur et être plus puissant qu'un surintendant. Qu'est-ce comme ça, tu vois.
Ouais.
Parce qu'un surintendant, c'est vraiment la gestion administrative. C'est pas quelqu'un qui va gérer vraiment les choses importantes.
J'avoue même.
Moi, je veux dire, par exemple, le surintendant ne peut pas lever l'host, tu vois.
Ouais.
Il peut pas lever les armées du Valdarine.
Bah, j'avoue même, c'était Ned qui disait, vas-y, donne-le au gosse le titre de gouverneur de l'Est.
Non, mais Nestor Royce n'était pas gouverneur de l'Est, hein.
Oui, mais bon, c'est...
Justement, sur l'instant, c'est vraiment les affaires administratives.
Ah ouais, genre, c'est vraiment, tu t'occupes des trucs chiants.
Ouais, voilà.
Ouais, d'accord, ok.
C'est pas vraiment, c'est pas lui qui gouvernait le Val. Il gouvernait le Val administrativement. Mais par exemple, comme on disait, il pouvait pas lever une armée. Il pouvait pas convoquer des seigneurs, tu vois, c'est pas quelque chose comme ça.
Remplir les bons de demande, fax, brancarde, les patients.
Après, ouais. Peut-être un peu plus important que ça, mais tu vois. Kathleen demande à Sir Nestor l'hospitalité pour la nuit, mais le chevalier l'informe que Lady Lisa souhaite la voir sur le champ, tandis que les autres la rejoindront dès demain matin. Cela révulse Brynden, qu'il n'y a pas de meilleure occasion de se rompre le cou que d'effectuer l'ascension de la lance du géant de nuit, mais Kathleen est rassurée par une mystérieuse fille qui a, d'après ce qu'on lit, fait la montée 100 fois de nuit. Lorsque Kathleen lui demande son nom, elle se rend compte que la jeune fille est une bâtarde, à son plus grand désagrément. Stone est un nom de bâtard dans le Val. Donc la fille, elle s'appelle Mia Stone, hein. Et Stone, c'est un nom de bâtard dans le Val, tout comme Snow dans le Nord et Flowers, à Haut-Jardin. Donc si on cite les bâtards qu'on connaît, déjà on connaît deux Flowers dans les Apprentices, donc les bâtards avec le qui sont nés dans le bif.
Commence même pas à me regarder, j'en ai aucune idée, mec.
Bon, dans les appendices, on trouve Garth et Garrett Flowers. Ça ne dit rien non plus. Ok. Garth et Garrett Flowers, ce sont les enfants de Garth Tyrell, le Lord Sénéchal de Haut-Jardin, qui est le cousin de Mace Tyrell, le Lord de Haut-Jardin. Le Seigneur de Haut-Jardin. Ok. Bon, en tout cas, ils apparaissent dans les appendices, hein.
Ok.
On sait aussi que dans les gonflants, le nom de bâtard est Rivers. Est-ce que tu sais comment on le sait?
Non, on l'a pas dit encore. Pour ça, Lord Frey, mais...
Si, c'est ça.
Il a des bâtards.
Ouais. Un des bâtards de Lord Walder Frey, le sire des jumeaux, se nomme Martin Rivers. Donc lui, on va le rencontrer dans le tournoi de la main.
D'accord. Ah oui.
Mais surtout, on se rappelle... que Robert a eu une bâtarde dans le Val. Et les âges correspondent. Parce qu'on dit dans le texte qu'elle a, je crois, 18-19 ans, quelque chose comme ça.
D'accord, ok.
Et on sait que Robert, c'était il y a 18-19 ans qu'il a vécu dans le Val, hein, lors de sa jeunesse. Donc, les âges correspondent, on sait qu'il y a une bâtarde à qui il tenait. On sait, voilà, quoi. Donc on peut supposer que... Je sais pas. Après, ça peut être aussi une coïncidence, hein. Mais on a parlé de bâtards depuis, ça fait 5-6 chapitres qu'on en parle. Là, on rencontre une bâtarde qui a le même âge, que devrait avoir la bâtarde de Robert.
Ce serait que le monde serait vraiment petit, quand même.
Surtout qu'elle est au service d'un grand seigneur, et je pense pas que c'est tous les bâtards qui ont cette chance-là.
Ça,
le monde serait petit, si c'était pas le cas. Hein. Et cette histoire de bâtard fait repenser Kathleen à John, au mur maintenant, avec, et là je cite le texte, des remords se disputant à l'antipathie. Et c'est exactement ce qui se passe pour Tyrion, en fait. C'est-à-dire que elle le hait tellement que même avec des remords, elle peut pas s'empêcher d'abandonner, quoi. Elle peut pas s'empêcher de c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est Kathleen. C'est-à-dire que elle est tellement loin dans son délire. Franchement, c'est compliqué pour elle, même avec des... Je pense qu'il y a une part de ça, je pense qu'il y a une part d'elle qui sait, parce qu'elle est logique, elle est intelligente. Au fond d'elle-même, je sais qu'elle le sait, tu vois. Elle sait qu'ils sont innocents, elle sait que John n'a rien à voir dans l'histoire, elle sait que Tyrion n'a rien fait à Bran. Mais elle veut pas se l'avouer.
C'est ouais, ouais, elle est trop dirigée par ses émotions.
Bon, ça serait avoir un discours à l'encontre des femmes. Ouais, elles sont trop dirigées par leurs émotions.
Arrête, j'ai parlé de Kathleen, j'ai pas parlé de toutes les femmes. Hein.
Mais ouais, franchement, les rumeurs se disputent en antipathie, c'est tellement la phrase qu'il a définie en ce moment même. Ah là là, Kathleen. Elle se remet néanmoins entre les mains de Mia Stone pour qu'Inestor Roy se porte garde. Kathleen et Mia commencent alors l'ascension de la montagne sur les mulets, sans torche, à la seule lumière des étoiles et de la lune. Elle lui parle aussi, Mia Stone, de son Michel, son amoureux, celui avec qui elle a gravi tant de fois la montagne. Bon, Michel est là, il y a encore
ouais, une histoire de traduction. Cette fois-ci, j'ai vu, c'est Rougefort.
Ouais, c'est ça. Donc là, dans le texte, c'est Redford, mais en vérité, c'est que la traduction prochaine, ça sera Rougefort, ouais. La famille Rougefort, c'est une maison vassale de la maison Harry, non? Donc ce Michel Redford est l'actuel écuyer de Lynn Corbray. C'est un chevalier de la maison Corbray. Hein. La maison Corbray étant une maison vassale de la maison Arryn et qui est en soubriant de Lady Lisa. C'est dommage pour la petite, se disait Kathleen, car la maison Rougefort était une ancienne famille et qu'elle n'accepterait jamais qu'un des leurs se marie à une bâtarde. C'est assez triste, hein, mais j'ai rappelé, non, comme on dit. Esberce illusion. Bref, on suit ensuite l'ascension de ces deux femmes. On suit ensuite l'ascension de ces deux femmes vers les différents forts que sont pierre, neige et ciel. Alors là, j'ai pas grand chose à dire sur cette ascension, hein, qui dure quand même 2-3 pages. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, Guillaume, par rapport à ça.
C'est pas facile à monter. t'as le vertige, il y a du vent, c'est galère, quoi.
Ouais, d'où le fait que pour des chevaliers, en plus, ils doivent monter à un mulet et les chevaux sont pas adaptés.
Au point où Kathleen, elle a préféré prendre l'ascenseur à légumes, là.
Ouais, ça. Quand on se arrive à ciel, pour monter jusqu'aux arrières, ouais.
Là, je pense qu'elle a vu la pente, elle a fait, c'est mort. Elle est arrivée, elle avait, non.
Elle a dit, bien que les Lannister ont leur honneur, moi j'ai mon bon sens. Mais après, son bon sens, il a géométrie variable, hein. Parce que bon, ouais. Moi, je vois qu'elle a fait la géométrie très variable même. Et justement, quand elle arrive au Zaire, Kathleen, elle fut accueillie par Vardis Egan. Je sais pas trop comment on prononce ça. Je sais pas si c'est Egan, Egan. Moi, je prononce Egan. Mais...
Egan. Mmh.
D'après les appendices, ce Vardis Egan, c'est le capitaine de la garde royale de Jon Arryn, la garde personnelle, pardon, de Jon Arryn. Et elle fut aussi accueillie par Maître Colmon, qu'on rencontre enfin, ce fameux Maître Colmon, celui qui a diagnostiqué... qu'est-ce qu'elle a diagnostiqué encore à Jon Arryn?
Ah oh, putain, je sais plus, c'était pas le froid, un truc comme ça.
C'est ça.
C'est pas genre...
Je sais pas, quel même
le... Un truc de merde.
Il la conduisit vers sa sœur, que le lecteur va enfin rencontrer. Et par les yeux de Kathleen, Lisa Arryn a semble-t-il bien changé depuis la dernière fois qu'elles se sont vues, et même depuis leur adolescence. À l'abri des yeux de tous, Lisa révéla enfin son visage à Kathleen, commençant sur un ton colérique à lui demander ce qui lui a pris d'amener Tyrion Lannister aux Aériens. Elle l'avait prévenu par lettre pour qu'elle se mette en garde, et non pour qu'elle aille combattre la famille la plus puissante de cette couronne. Robert Arryn vient ensuite les interrompre, et apparaît aussi frêle que Brynden l'avait prévenu. Mais, pour Lisa, c'est pour lui que John avait réservé ses derniers mots pour son fils Robert Arryn, la graine est vigoureuse.
Elle a craqué. Elle a craqué.
Bah, elle a craqué peut-être, mais en même temps, moi je la comprends. C'est-à-dire que dans ses derniers mots, son mari dit Robert, la graine est vigoureuse. Il parle le nom de son fils, c'est compliqué de trouver autre chose, quoi.
Ouais, j'avoue. Mais bon, ça se voit, en fait, Lisa, elle est devenue cinglée, je pense, l'histoire des... Quoi?
Ouais, elle est pas cinglée, là.
Elle est cinglée, wesh. Avec son enfant, là. Tu vas terroriser mon gosse, tiens, tété.
Elle est très protective.
Trice.
Protectrice, pardon, oui. Mais, pas jusqu'à cingler, c'est quand même un mot fort. Tu vois, là, elle a quand même sa tête.
Cinglée, frère.
Non, mais elle a quand même toute sa tête. Je veux dire, elle prend pas des décisions irréfléchies, comme amener Tyrion Lannister aux arrières.
Ouais. j'avoue, là, elle marquait un point pour qu'est-ce que tu fous avec Tyrion, ça, ça elle marquait un point. Mais, ouais, vas-y. Et là, son fils.
Non, mais je pense que oui, c'est juste que Brynn Tully a raison. C'est-à-dire que les années à Port-Réal l'ont éreintée. Après, bon, jusqu'à dire cinglé, c'est quand même un mot fort, mais elle est, c'est plus qu'elle est sur ses gardes. Oui, elle a un petit côté. Là, il y a quelque chose qui déraille un peu, quoi.
Je parie 1000 balles qu'elle est cinglée.
Mais ce qui choque encore plus Kathleen, c'est qu'à 6 ans, c'est Robert Arryn tête encore au sein de sa mère. La graine n'est pas si vigoureuse. Et ça, moi, c'est quelque chose et tout. C'est quelque chose qui m'a marqué, mais par rapport à la série. Merci. Vraiment, la scène de Lisa Kathleen qui fait téter Robert, quoi. Non, Lisa Kathleen. Lisa Arryn qui fait téter son fils. C'est vraiment... Ah là là. Je vois, moi, ça me... Les grands enfants qui tèrent encore au sein de la mer, ça me... C'est vraiment quelque chose qui me... Surtout, je comprends, parce que dans la série, elle a vraiment l'air cinglée, tu vois, Lisa.
Ouais,
dans la série, vraiment, elle a l'air cinglée. Dans le livre, pas tellement, tu sens que, voilà, quelque chose qui, mais bon. Elle a quand même assez normal, juste que le fait de faire encore téter son fils, là, c'est, bon, tu sens par rapport à son fils, oui, il y a vraiment quelque chose qui derrière.
Ouais, là, j'espère que Maître Coleman, il sait faire de la thérapie familiale, là, parce qu'il est, va falloir doser, là.
Mais après, bon, on sait qu'elle a fait plusieurs fausses couches aussi, hein.
Ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, je pense que elle a tellement peur de perdre un autre enfant. Je pense qu'elle a tellement elle a dû espérer pendant longtemps. Mmh. Bah 8 ans, c'est attends, ça fait 14 ans que non, ça devrait faire très longtemps.
Bah ça fait 14 ans, 15 ans qu'ils sont mariés, oui, avec
Ouais, Canary. Donc c'est au bout de genre 7 8 ans de mariage qu'elle a eu le fils qui
ouais,
a tenu le coup.
Ouais, c'est ça, ouais.
Le fils qui a tenu le coup au bout de 8 ans. Donc pendant 8 ans, elle a espéré un enfant et
Ça venait pas, ça
mourait.
Elle a pas choisi de mon parti parce que on sait que John Arryn a eu deux femmes avant elle. Hein.
Ouais.
Et qu'il y en a une qui est morte en couche et l'autre, qu'elle a pas eu d'enfant aussi ouais. avec ses femmes précédentes. Donc peut-être que ça venait pas d'elle. Hein.
Ouais.
Que
c'est... Et je pense qu'aussi qu'elle, dans son subconscient, elle sait que son fils, c'est genre, il est ultra fragile. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle est encore plus protectrice, tu vois, elle veut pas l'admettre,
ouais.
Mais que inconsciemment, elle sait que son fils, genre il est chétif.
Ouais. On savait d'ailleurs que Tywin Lannister avait proposé de prendre Robert Arryn pour pupille, mais que Lisa avait refusé.
Je sais pas si il aurait supporté le gosse, hein.
Ouais, mais en fait c'est dit, mais je crois pas qu'on les notifiait dans notre première lecture, mais qu'en fait, que quand Tywin avait proposé de prendre Robert Arryn pour pupille, c'était la première pupille qu'il prenait. Il n'avait jamais pris de pupille avant. Et donc, Robert dit que ça a dû être un affront pour lui de se faire refuser ses offres, quoi.
Ouais. Bah, t'imagines, Tywin.
Je comprends pas pourquoi Tywin l'avait proposé de prendre Robert Arryn pour pupille, d'ailleurs.
Ouais.
Je vois pas pourquoi il prendrait Robert, parce qu'il le connaît à peine. Enfin, je veux dire,
T'imagines Tywin, le mec le plus puissant, l'un des mecs les plus puissants de Westeros, c'est. Il arrive, t'as Robert, il fait Sir Tywin, il est où le biberon
Ouais, non.
Et je pense qu'il bug, hein.
Non, mais je pense qu'il a rendu sous roche par rapport à cette offre.
Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est grave bizarre. Parce que de toutes les pupilles qu'il pourrait prendre, pourquoi il irait prendre ce gosse-là
Je pense que c'est plutôt quelque chose que Cersei a dû dire de faire à son père. Parce qu'elle a dû craindre que ce soit des agissements de John Arryn ou quelque chose
ouais,
comme ça.
Ouais, peut-être, elle craignait John Arryn ou que Lisa fasse un coup bizarre ou je sais pas quoi, elle s'est dit, vas-y, on prend le pupille en mode otage.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on savait déjà qu'elle craignait John Arryn, hein, dans sa conversation qu'elle a eue avec Jamie, là, dans la tour à Winterfell. Donc sûrement, comme tu dis, hein, qu'elle a voulu prendre Robert Arryn comme sorte d'otage.
Ouais, et que en mettant le nom de Tywin Lannister en tant que tu vois garant, et ben genre c'est tellement une offre énorme que normalement tu la refuserais pas quoi de
c'est ça, ouais.
D'être la pupille de Tywin.
Mais on savait que Jon Arryn lui voulait envoyer son fils chez un père adoptif à Père Dragon. Ça on l'a su, tu sais c'était rapporté par son échanson, quelque chose comme ça, celui que Jorah Castell a interrogé quatre des servants de John Arryn qui étaient restés à Port-Réal, et il y en avait un qui avait dit que John Arryn voulait envoyer justement son fils à Père Dragon, supposément chez Stannis.
D'accord.
mais Lisa va encore une fois refuser. Bref, pour Kathleen, Lisa se méprend en pensant que le château est imprenable et à l'abri des Lannister, parce que Lisa, on le voit dans le chapitre, hein, elle se pense très protégée. Et c'est à la fin de ce chapitre que Robert Arryn lâche le sang de sa mère et lui demande de faire voler Tyrion, comprenant qu'il fait partie des vilains. Et c'est bien ce que Lisa compte faire. Donc voilà, c'est assez intriguant ce terme de faire voler Tyrion.
Bon, je pense que vu la hauteur des herriers, ça part en mode défenestration.
Mais non, Tyrion, j'espère qu'il va devoir avoir quand même un procès juste équitable. En tout cas, c'est ce qu'a promis Kathleen. Ben bon, Lisa, elle a pas trop l'air du genre à vouloir donner un procès juste équitable à Tyrion. Hein.
Ouais, en général, c'est compliqué de prouver quelque chose que tu n'as pas fait. Par définition, donner la preuve que tu n'as pas fait quelque chose, c'est très 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 compliqué sur un terme juridique. C'est que ça n'a aucun sens.
Ça me fait penser à quelque chose qu'il y a eu dans Harry Potter, le 7e. Tu sais que t'es relique de la mort. Et il y a la prière de résurrection. Et du coup, Hermione, au départ, elle y croit pas. Et donc, elle discute avec Xenophilus Lovegood qui lui dit « Oui, mais pourquoi vous n'y croyez pas ?» Et elle dit « Mais parce que c'est sûr que ça n'existe pas. » Et elle dit « Mais prouvez-moi qu'elle n'existe pas. » Et Hermione lui dit « Mais prouve-moi qu'elle existe. » Et lui dit « Mais prouvez-moi qu'elle n'existe pas. » Et elle dit « Mais c'est complètement débile. » Il faudrait que je prenne chaque pierre qui existe sur Terre et que je prouve que c'est pas la pierre de résurrection.
Ça s'appelle la preuve du diable. En termes juridiques, ça s'appelle la preuve du diable. Genre, ça part du truc, genre en mode, on peut pas prouver que le diable n'existe pas, tu vois. Il suffit de trouver une fois le diable, on peut prouver, mais on peut pas prouver que quelque chose n'existe pas.
Ouais. En tout cas, voilà, on a terminé avec ce chapitre qui était assez long. Il fait combien de temps l'épisode? 56 minutes, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode aussi long.
Ouais, de change, genre depuis le prélude ou depuis le...
Peut-être les chapitres de Daenerys, ils sont longs comme ça, mais...
On a un peu de montage à faire dessus, là, mais on va peut-être perdre 6 minutes, mais...
Ouais. Mais en tout cas, bon, j'espère que vous avez appris des choses en nous écoutant. En tout cas, que ça vous a plu. Et puis, voilà, on se retrouve la semaine...
C'est pas pour le dernier chapitre du tome 1 de la découpe française?
Ouais. Dernier chapitre du tome 1 de la découpe française, ça fait...
C'est drôle quand on dit comme ça. Maigre consolation.
Mais en tout cas, on avance.
Bon, c'est un chapitre de...
De Ned.
Bon, bah go pour le dernier chapitre du tome 1.